Vivacité, ma radio complicité.
Notre invité cette semaine dans Les Petits Papiers, c'est Françoise Keuten. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Un peu fatigué, un peu harassé, un peu épuisé.
Par beaucoup de choses qui se passent pour le moment.
Ah, c'est pas la promo qui épuise, c'est vraiment le travail pour finaliser ce monstre qu'est le Trainword. C'est vraiment dur. Mais bon, en même temps, je vais pas me plaindre, hein, c'est un projet qui nous anime, toute une équipe qui nous fascine, mais qui est aussi, voilà, c'est aussi épuisant.
Alors, on va le présenter, ce projet, hein. C'est l'idée de créer un musée du train à Schaerbeek. Et donc, il y a déjà des choses qui sont en chantier, déjà des choses qui sont établies, d'autres qui arrivent encore. Et vous avez, c'est votre projet, hein, quelque part. En tout cas, c'est vous qui avez imaginé les choses.
Oui, donc ça fait 10 ans en fait que je travaille là-dessus avec tous mes amis, avec toute une team, hein, extrêmement créatif, extrêmement passionné, et on arrive au bout là. Donc c'est assez curieux de voir que tout ce qu'on a rêvé pendant ces 10 ans se concrétise avec des moments d'exaltation et puis des moments de déception, parce qu'on rêve toujours du mieux, on voudrait toujours que ce soit plus beau encore. Mm-hmm. Et puis on doit faire avec le temps, avec les moyens, on doit faire avec ce qu'il y a, et malgré tout retrouver l'émotion et le plaisir qu'on a longtemps eu sur ce projet.
Françoise Keuten, vous avez devant vous juste là une pile de petits papiers sur lesquels vous allez trouver des mots. Mm-hmm. Vous pouvez piocher.
D'accord.
Un papier et puis voir ce que ça évoque.
Ciel. Ah, j'aime beaucoup le mot ciel, et j'aime beaucoup les ciels en général. D'ailleurs, vous allez voir dans le Trainword, il y a beaucoup d'espaces qui sont fermés, qui sont en black box. Il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont en black box. Et il y a des ciels, il y a de quoi donner la relation. Mais là, évidemment, l'avantage quand on fabrique les ciels, c'est qu'on peut les faire identiques, on peut les faire vivre, mais surtout on les dirige. Ce qui est fascinant dans le vrai ciel, c'est que il nous surprend, il n'est pas toujours comme on le voudrait, il nous accompagne, il nous donne notre humeur. Il est extraordinairement profond. Vous savez, c'est Léonard de Vinci qui dans les ciels voyait des compositions, voyait des personnages, voyait ses tableaux en fait presque. Et ben, c'est sûr que le ciel, quand je fais un dessin, ben, le ciel a beaucoup d'importance. La couleur du ciel, c'est un petit peu ça qui va guider l'ensemble de la lumière de l'image.
J'avais été frappée un jour où je voyais un reportage qui avait été tourné dans votre atelier, de voir que votre atelier est mansardé, il y a d'immenses fenêtres qui donnent sur le ciel. Et ce jour-là, le jour du reportage, il y avait un ciel assez clair, donc il y avait cette lumière qui inondait l'endroit. Est-ce que cette lumière sous laquelle vous travaillez, qui peut être forte, mais le ciel peut être très sombre aussi, influence votre travail, vos pensées?
Ah oui, on travaille très différemment en lumière artificielle qu'en lumière naturelle, surtout pour les couleurs. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la lumière naturelle et qu'un ciel qui inonde votre table de dessin. C'est le regard le plus précis, le plus pointu, le plus exigeant à ce moment-là, parce que le ciel est avec vous. En lumière artificielle, vous perdez une part de détails.
Est-ce que comme Léonard de Vinci, vous disiez tout à l'heure, il voyait des choses dans le ciel, vous êtes parfois distrait ou absorbé par un nuage qui passe et par les formes qu'il peut...
Oui, vraiment, c'est extraordinaire de tout ce qu'on peut voir dans un ciel. Et alors, ça vous repose profondément. Je trouve qu'il y a quelque chose d'apaisant à se plonger dans cette dimension. Et puis, c'est étonnant la diversité des lumières, des couleurs. C'est pour ça que j'aime tant le peintre Turner, qui est un de ceux qui, sans doute, a rendu le mieux l'importance du vide, de l'espace. Il sait rendre une dimension. Il sait nous rendre minuscules dans les ciels. Et ça, c'est un grand talent.
Les petits papiers de vivacité.
Françoise Keuten est notre invitée aujourd'hui. Vous pouvez piocher.
Rail. Oh bah, écoutez, beaucoup de choses qui m'animent pour l'instant.
On parle beaucoup des trains. Mais le rail, c'est le support aussi. Et ça a son importance, c'est le support, c'est le chemin, c'est ce qu'on suit.
Oui. En plus, j'avais fait un livre avec Claude Renard qui s'appelait Le Rail. Mm-hmm. Et puis, j'ai fait un portfolio avec lui qui s'appelait L'Express. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses. Puis, j'ai fait des stations de métro. Puis, j'ai fait une exposition dans le cadre d'Europalia Russie qui, sur le transsibérien. Donc c'est vrai qu'il y a une longue, un long cheminement autour de ce sujet qui maintenant se concrétise. Je crois que là-dessus, j'ai vraiment maintenant, j'ai fait ce qu'il fallait là.
Vous allez passer à autre chose après.
Oui. Absolument. Je crois que c'est bien de se réinventer parce que. Mais en même temps, le plaisir, c'est d'aller jusqu'au bout. Avec le Trait Noir, c'est vrai que j'ai vraiment pu développer tout ce qui était pour moi important dans la dimension ferroviaire, toutes les valeurs, toutes les dimensions de rêve, d'imaginaire, mais aussi de technique, mais aussi de développement et d'histoire. Ce qui est intéressant avec le rail, c'est qu'on, quand on entre dans son histoire, on entre dans notre histoire, dans l'histoire de ce pays, dans l'histoire de l'Europe, mais dans l'histoire de nos familles, on entre dans une intimité parfois troublante, les vacances, les voyages, et puis dans la dureté, dans la guerre. On a mis un wagon de la déportation dans le Trait Noir, c'était pas évident, mais c'était vraiment intéressant pour crédibiliser le regard porté sur ce monde. Mais alors, avec un sujet comme celui-là, on se rend compte qu'on touche à tout, qu'on touche au métier, qu'on touche à la fierté des métiers, qu'on touche au syndicat, qu'on touche... c'est assez formidable. C'est un fil qui vous amène à tellement de sujets. Vous êtes toujours en train d'apprendre et de découvrir. Et ça, c'est très exaltant.
Au bout des rails, parfois le rail s'arrête. Hein, on arrive au bout d'un chemin. Qu'est-ce que vous aimeriez voir au bout de votre chemin, à vous ?
Oh, c'est l'émotion des autres. C'est... Quand vous travaillez beaucoup, vous avez envie de ressentir maintenant... Quel impact, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça crée chez l'autre. Ce qu'il y a toujours de plus beau, c'est quand le lecteur ou celui qui visite un espace comme celui-là vous renvoie à quelque chose que peut-être même vous ne soupçonniez même pas. Mm-hmm. C'est ça qui est le plus beau, c'est ce qui est derrière en fait. Vous travaillez énormément et parfois vous êtes très surpris que vous n'avez même pas vu ce que vous faisiez. Vous étiez trop près, trop dedans que pour saisir une forme qui est profonde, qui est cachée, mais que peut-être quelqu'un peut vous révéler.
Et parfois, l'émotion ne surgit pas là où vous aviez prévu qu'elle arrive, elle arrive à un autre endroit.
Absolument. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est qu'en fait, ça vous dépasse et vous êtes tellement les mains dedans que vous ne voyez pas toujours ce que vous faites. Ce qu'il faut, c'est que vous essayez que ça tombe juste. Vous voyez, vous êtes obnubilé par des cohérences, par des tas d'aspects qui peut-être disparaissent, c'est-à-dire aux yeux de certains spectateurs. Mais d'autres apparaissent et prennent une importance qui est troublante.
Françoise Keuten est l'invité des Petits Papiers aujourd'hui. Je vous propose d'en déplier un autre.
Alors, rigueur. Alors là, vous allez sur un sujet qui, évidemment, est à double tranchant. Parce que rigueur, ça veut dire discipline, ça veut dire exigence, mais ça veut dire aussi... Dans mon cas, parfois, obsédé dans les détails, obsessionnellement, voilà.
Braqué un peu parfois aussi
Oui, perfectionniste, avec un peu d'intolérance, sans doute. Un peu, ça doit être parfois un peu énervant de sentir un regard toujours regardant plus vers ce qui ne va pas que vers ce qui va. Et de l'obsession de corriger, demandant parfois... Avec les gens, j'ai vraiment des gens autour de moi extraordinaires et qui acceptent ça, qui acceptent de dialoguer avec cette insatisfaction presque permanente en fait. Bon, alors j'ai appris à me soigner, je fais un petit peu attention, mais
ça reste un moteur quand même.
Oui, mais je pense le dessin, par exemple, on ne peut pas être satisfait de ce qu'on fait en dessin parce que vous cherchez quelque chose. Et quand vous voyez le résultat, c'est à peu près toujours en dessous de ce que vous avez. Parfois, il y a des miracles où vous êtes surpris parce que ça vous a échappé presque. Donc, vous n'attendiez plus rien. Et il y a quelque chose malgré tout qui sort. Mais sinon, c'est toujours en dessous de ce qui avait été projeté dans la tête. C'était toujours plus beau, c'était toujours plus fort, c'était toujours imprévisible, étonnant. Et bon, voilà, vous débattez un petit peu. Et puis, à un moment donné, vous acceptez que ça vous appartient plus.
Est-ce que votre insatisfaction, Françoise Keuten, quand vous ouvrez un ancien album, par exemple, que vous avez dessiné, est-ce qu'il y a des choses qui vous énervent encore aujourd'hui? Si vous ouvrez un album d'il y a 10 ans et vous vous dites « Ah, celui-là, je l'ai raté, j'aurais dû refaire ça aujourd'hui. »
Oui, terriblement. Oui. Terriblement. Et d'ailleurs, Benoît Peters et moi, on a beaucoup retravaillé nos albums. L'ombre d'un homme, on a rajouté 12 pages, on a changé. On n'était pas du tout contents. On trouvait qu'on avait complètement loupé la fin.
Mais sur le moment, vous étiez contents. En tout cas, une fois qu'il a été fini, il a été imprimé, il a été publié, oui, cet album. On y revient après ?
Oui, là, on est revenu plusieurs années après. Mais au moment même, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose. Et puis alors, c'est après, en écoutant le lecteur. En écoutant le lecteur, on sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné tout à fait comme on l'aurait voulu. Et ça, c'est rageant. Alors qu'on s'interroge, parce qu'en plus, je pensais que c'était une bonne histoire. Mais vous savez, une histoire, c'est très mystérieux. Il faut prendre les bonnes portes au bon moment. Moi, je crois que les grandes histoires vous dépassent. Et c'est très difficile de les fabriquer. Moi, j'aime pas les histoires fabriquées. Quand je sens, je vois les outils, je vois tous les mécanismes. J'ai travaillé avec pas mal de script docteurs, avec des techniciens du scénario pour des films. Donc, je connais leurs méthodes. Alors, ça m'agace quand je vois les méthodes qui sont en avant. Ce qui est beau, c'est quand vous êtes surpris parce que là, il a usé de certains outils, mais ça ne se voit pas. Nous, Benoît Peters et moi, on fait une confiance un peu, parfois exagérée, un peu aveugle, en une dimension presque interne au récit. Comme s'il y avait quelque chose dont nous devions être à l'écoute et qui allait se développer comme par effet...
Quelque chose qui vous échappe alors, qui viendrait d'ailleurs.
Quelque chose qui vous échappe, hein. Voilà. Oui. Il y a pas mal d'écrivains qui parlent de ça.
On appellerait ça comment ? L'inspiration, le...
Comme si vous aviez une forme dans le sable et que vous époussiez pour découvrir un squelette, mais que vous ne sachiez pas exactement quel est ce squelette et quelle est la forme. Vous n'êtes que en train d'enlever le sable et la chose apparaît. La chose surprenante qu'est cette histoire se découvre en fait. Et j'aime bien cette idée-là parce que ça vous met dans une position sur le mystère des récits, quoi. Et sur la complexité de les approcher avec humilité et en même temps beaucoup de rigueur. Il faut beaucoup travailler. Il faut entrechoquer les idées pour que justement faire surgir cette chose.
Le Train World, Musée du Train, a ouvert ses portes au public juste à côté de la gare de Schaerbeek à Bruxelles ce vendredi. Vous pouvez donc désormais le visiter. Il y a aussi un site internet que vous pouvez consulter pour en savoir plus. C'était l'occasion de rencontrer François Skuyten, le dessinateur et scénographe, qui est un des maîtres d'œuvre de ce projet Train World et avec qui on déballe des petits papiers jusqu'à 14h.
Les petits papiers de vivacité.
François Skuyten est notre invité aujourd'hui. Allez-y, vous pouvez...
Oui, absolument.
C'est marrant, jusqu'à présent, vous les avez piochés exactement dans l'ordre sur lequel ils sont sur ma feuille, ce qui n'arrive jamais.
Ah, incroyable. Bon, bah alors là, évidemment, le mot par excellence, pour moi, dessiner, c'est mon métier. C'est un plaisir toujours extraordinaire. J'en ai besoin, c'est viscéral.
Vous dites c'est mon métier, mais c'est plus que ça, parce que vous dites aussi parfois que c'est compulsif et que c'est grâce ou à travers le dessin que vous arrivez à parfois à comprendre ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire que vous prenez votre crayon et vous dessinez pour essayer de débloquer des situations ?
Presque, oui, ouais. C'est vrai. J'ai l'impression d'ailleurs que je ne vois que quand je dessine. Mm-hmm. Donc je suis un peu aveugle quelquefois. C'est en dessinant que je décrypte, que je décode, que je m'approprie et je comprends.
Par rapport à votre travail ou par rapport au monde aussi qui vous entoure en général ?
Si je n'étais pas avec un micro, ça me paierait de vous dessiner, de voir comment vos cheveux tombent, de voir votre chemise, les plis. C'est une couture de vêtements qui fait tomber différemment les plis et vous avez presque envie de l'avoir compris. Et la seule façon de le comprendre, ce n'est pas de le regarder, mais c'est vraiment de le dessiner pour moi.
Ce que vous racontez, c'est très technique aussi. Ça relève d'une envie de comprendre chaque chose. C'est presque, on a l'impression qu'il y a un côté ingénieur chez vous aussi.
Oui, mais en fait, quand vous dessinez, si vous ne comprenez pas ce que vous dessinez, ça ne marche pas. C'est pour ça que j'aime tellement Franquin. C'est que Franquin, quand il dessinait un animal ou une machine, la machine, on a l'impression qu'il l'avait inventée, qu'il l'avait construite. Et l'animal, on a l'impression qu'il avait été un chimpanzé toute sa vie. C'est incroyable comment il savait incarner. Donc, il avait une compréhension très interne de ce qu'il dessinait. Ou une voiture, un très grand dessinateur de voitures, Franquin, on a l'impression qu'il l'a construite, qu'il était un fabricant de voitures, tellement qu'elle est juste, tellement qu'elle est perçue par l'intérieur.
Est-ce que par rapport à ce qui se passe dans le monde, si vous êtes devant un journal télévisé par exemple, vous avez aussi un crayon et un papier à portée de main ?
Ça m'arrive de prendre un crayon. Mais évidemment, le problème, c'est que ça va très très vite.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, si par exemple, il y avait une émission, on pouvait regarder quelqu'un sur le même angle pendant un peu de temps, ce serait passionnant d'ailleurs à faire. Tout de suite, je serais tout le temps avec ma feuille de dessin. Mais le problème, c'est qu'on change d'angle, qu'on est dans une société qui veut que ça bouge, et dès lors, c'est très difficile. Ça, j'ai pas la rapidité de Johann Sfar, donc je suis un peu plus laborieux.
Les petits papiers de vivacité.
François Skuyten, notre invité aujourd'hui, je pense qu'il reste deux papiers.
Oui, absolument. Jardiner.
Oui.
Oui, ben, c'est aussi quelque chose qui est un vrai plaisir. C'est une façon d'oublier, de se débarrasser, de se nettoyer de toute une série de tracas, mais aussi d'inquiétudes, de responsabilités sans doute.
Mm-hmm.
Et jardiner, c'est prendre conscience, c'est mettre la main dans la terre, c'est extraordinairement vivifiant de toucher la matière, de la pétrir, de sentir les plantes, de sentir comment elles s'inscrivent, comment elles s'enracinent. J'adore ça.
Il y a un rapport physique au jardinage, hein. C'est un travail manuel physique, mais quand vous parliez de dessin tout à l'heure, j'avais la même sensation que le crayon était presque un prolongement de votre main et que dessiner, c'était quelque chose de physique aussi, que c'était pas seulement votre esprit qui commande votre main, mais qui a quelque chose de l'ordre du physique dans tout ça, de l'activité physique.
Oui, mais c'est vrai, le dessin, c'est très physique. Si vous n'êtes pas en forme, si vous n'avez pas l'énergie, si vous n'êtes pas concentré, vous sortez rien. Et ça vient presque du ventre, le dessin. Il faut que ce soit, tout votre corps soit animé, tendu, pour être productif. Et c'est ça que j'aime dans le dessin, c'est que on voit dans un dessin presque la santé de la personne, l'énergie de la personne, et la façon dont il est posé sur la terre, dont il ressent les forces. Le dessin, c'est une façon de se centrer.
Mmh. Est-ce qu'il vous arrive de regarder des enfants qui dessinent et d'observer et d'en tirer effectivement des conclusions sur la manière dont ils sont, dont ils...
Oui.
On sait que c'est utilisé, hein, souvent le dessin en psychologie notamment, avec des enfants. Est-ce que ça vous arrive d'observer ça? Est-ce que ça vous fascine?
Oui, c'est intéressant parce qu'évidemment, déjà la façon de tenir le crayon, la façon de se tenir par rapport à la page, de regarder son dessin ou de regarder ce qu'il dessine, comment le regard bouge, on apprend énormément. Parce que déjà, il y a mille une façons de tenir, le rapport à l'objet va changer le dessin. Et pour avoir un geste, le format aussi, comment il balaye la page, s'il travaille petit, s'il travaille grand, le geste, ça en dit beaucoup, oui. Ça parle beaucoup.
J'imagine qu'il y a de jeunes dessinateurs qui viennent vous voir aussi, vous consulter, vous montrer leur dessin. Est-ce que c'est quelque chose qui vous met à l'aise, ça? Parce qu'évidemment, conseiller quelqu'un, c'est peut-être insuffler quelque chose qui enlève de sa propre créativité.
Ce qui me met pas à l'aise, c'est juger un travail. J'aime pas être dans les jurys, je supporte plus ça. J'ai pas envie de dire c'est bien, c'est pas bien. Par contre, quand il y a des jeunes auteurs qui viennent, j'aime beaucoup dialoguer avec eux, comprendre, les regarder. Et c'est vrai, un petit peu essayer de saisir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'ils construisent à travers le dessin. C'est une forme, mais c'est pas ça qui est toujours en jeu au cœur de tout ça. C'est qu'est-ce qu'il a envie d'être, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Et le dessin est un outil pour exprimer tout ça. Donc, on ressent tout ça.
Il reste un dernier papier, oui. François Skuyten. Je pense que c'est très bien pour terminer, si c'est bien celui que je pense.
Trace.
Et voilà.
Trace. C'est un joli mot, le mot trace. Oui, alors soyons très clairs. Il est évident qu'on aimerait laisser une trace, hein, que les livres, les stations de métro, les machins, ça peut donner le sentiment qu'on est obsédé par... En même temps, honnêtement, je pense qu'on ne domine absolument rien et la plupart du temps, on ne laisse pas beaucoup de traces. Mais parfois, des petites choses, et même les petites choses me touchent beaucoup. Moi, je vois des tas parfois de gravures ou de dessins d'artistes totalement inconnus, mais que j'adore et qui m'influencent et qui me touchent. Et parfois, je les sors... Je ne sais absolument rien sur cette personne. Sans doute, elle est passée complètement à côté de l'histoire, de la grande histoire. Elle aurait mérité d'y être bien plus présente. Curieusement, elle est inconnue. Mais ce qu'il a produit là, eh ben, c'est un ravissement. Et déjà ça, je suis tellement heureux de pouvoir en profiter que j'espère, je me dis, ne fût-ce que donner ça à un moment donné, voilà, c'est déjà pas si mal.
Et si vous pouviez choisir une seule de vos réalisations qui resterait, qui serait la trace de François Skuyten, qu'est-ce que ce serait
Oh là là là.
Qu'est-ce qui resterait?
J'espère celles qui vont venir, parce que ce sont, j'espère qu'elles seront encore plus intéressantes, plus belles. Je trouve que tout ce que j'ai fait, et je vois toujours tellement mais sans rire, hein, je vois toujours tellement les imperfections. Il y a des trucs tellement qui m'agacent. Il y a des endroits que je ne veux même plus fréquenter. Je n'ose plus descendre à la station Porte de Halles.
Que vous avez,
oui, parce que j'en suis pas tout à fait content. La station Air et Métiers n'est pas bien entretenue, donc je sais pas non plus.
Ça, c'est à Paris. Oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez changer à la Porte de Halles, par exemple? Parce que pour les auditeurs, peut-être que là, ils peuvent visualiser.
Oh, j'aimerais revenir dessus. J'aimerais retravailler les teintes, redonner une retrouver l'esprit qu'il y a au départ et qui s'est peut-être perdu parce que j'avais pas assez d'expérience, j'avais peut-être pas assez compris ce qu'il fallait faire. C'était très contraignant à l'époque. Ils avaient commencé à mettre des carrelages. Ils sont arrivés très tard pour me demander d'intervenir. Et donc, je n'ai pu que faire des espèces d'espaces assez fermés sur eux-mêmes. Et donc, oui, j'aimerais encore batailler pour arriver à en tirer le mieux.
C'est peut-être une possibilité encore, hein, peut-être revenir là-dessus un jour.
Oui, je trouve que, d'ailleurs, le repentir, revenir sur les choses, c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus développer, comme je le fais avec Benoît sur nos albums de bande dessinée, où on corrige, comme Hergé l'a fait avec ses albums aussi, pas toujours d'ailleurs à juste titre, ça c'est un problème, parfois on peut gâcher des choses, c'est certain, mais corriger, améliorer, je trouve que c'est vraiment une des choses qui m'intéresse le plus, parce que alors on a un sentiment de rester en contact avec ce qu'on a fait, de pas l'abandonner.
C'est peut-être ça aussi que vous avez peur, c'est de lâcher complètement vos réalisations.
Oui, moi je pense que toujours elles n'ont pas donné tout leur jus et qu'il y a encore moyen de les pousser jusqu'à leur extrémité.
Et ça veut dire que le jour, par exemple, où un album de bande dessinée sort et est distribué dans les librairies, ça doit vous mettre dans un état de stress terrible parce que là, il est lâché, il veut être consulté, donc ça doit être difficile si vous estimez toujours qu'il y a mieux à faire avec.
Oh, tout à fait. Moi, pendant très 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 longtemps, je faisais carrément une dépression parce que je trouvais que c'était jamais jamais bien. J'étais toujours triste de l'impression. J'espérais toujours que ce soit mieux. Et j'ai vraiment dû apprendre à faire le deuil d'un certain nombre de rêves.
Oui, ce Trains World, justement, qui arrive à la gare de Schaerbeek, hein, donc musée du train, est-ce que ça va aller ou est-ce que ça va être, selon vous aussi, un deuil difficile le jour où les portes vont s'ouvrir au public?
Oui, alors tout doucement, je suis en train de m'y faire parce que ça fait des mois où le système se resserre, se précise. Et donc, on voit bien qu'on ne peut plus intervenir. Là, on travaille beaucoup la lumière, beaucoup le son. Parce que c'est un énorme opéra ferroviaire. Le son joue un rôle très important. Mais il y a 60 films qui sont projetés. Il y a 1500 projecteurs de lumière. Donc, tout ça est dans la mobilité, dans le mouvement. Donc, il y a encore un énorme travail de mise en scène qui est en train de se jouer. Mais malgré tout, je vois bien que voilà, on inaugure dans quelques jours et c'est fini. Je n'ai plus d'espace que pour intervenir. C'est fini. Il va falloir s'y faire. C'est pas toujours facile de penser que l'histoire va s'interrompre, en tout cas pour moi.
Merci beaucoup, François Skuyten. À très bientôt. Merci d'être venu.
Vivacité, ma radio complicité.